Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Monde de dames, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr, 21h45, hein, votre rendez-vous. Vous, les afteriens qui écoutez les drôles de dames le lundi soir, vous nous appelez le 32-16, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien sur Manchester United, par exemple, sur Séville, n'hésitez pas, sur Monza, par exemple aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Pour finir, mon cher Polo, sur le Bayer Leverkusen, c'est la grande question, bien sûr, qu'on a déjà évoquée, parce qu'on sait que souvent dans l'ivresse d'un titre aussi historique que celui-ci, souvent tout le monde annonce qu'il va rester la saison prochaine, parce que le groupe est formidable, parce que le public est merveilleux, parce que la ville est splendide. Est-ce que ce sera le cas au Bayer Leverkusen? Est-ce que certains ont déjà annoncé qu'ils allaient rester dans le sillage de Xavi Alonso, hein, depuis plusieurs semaines déjà?
Évidemment, l'actif le plus important, c'est Florian Wirtz, sa famille a communiqué en disant qu'il allait rester une année de plus. C'est important. Il y a même des nouvelles sur le fameux Jonathan Tall, international allemand, qui pourrait être titulaire à l'Euro, qui lui n'a plus qu'un an de contrat, était le seul dans une situation un peu compliquée au Bayer Leverkusen. Il voulait partir en Première Ligue, mais apparemment il serait prêt à prolonger. Il nous fait ça de toute façon quasiment chaque année. Et puis la seule autre possibilité, c'est le cas de Frimpong, qui a une clause dans son contrat à 40 millions.
C'est faible pourrait... pour le joueur que c'est. Ça peut être...
Je suis pas tout à fait.
J'aime bien le joueur, saison, quoi.
Mais je voudrais bien voir qu'il soit plus constant. Le jour où il sera aussi constant que Grimaldo, je pense qu'il voudra beaucoup plus. Mais en tout cas, ce serait. Pardon.
Frimpong, ça marche très bien dans un système.
Ouais, exactement.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est. Et puis il est aussi inconstant lors de ses rencontres. Sinon, globalement, il n'y a pas de raison que cette équipe explose. Le vrai problème et la vraie question derrière, c'est est-ce que Leverkusen après cette saison peut réitérer en championnat l'année prochaine la même chose. Je pense que oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du court-termisme, parce qu'en 2025, Wirtz ne sera plus là. Qui dit Wirtz parti, Boniface, on verra ce qu'il va faire au bout de 2 ans. Si Xabi Alonso part, on sait très bien que ça va être compliqué de conserver toutes les autres personnes. Et là, on est dans une situation très différente du Borussia Dortmund de 2011-2012, puisqu'on était vraiment dans une longue création avec un coach qui était en train, qui était allemand en plus, Jürgen Klopp, qui était en train d'apparaître sur la place internationale, et qui arrivait par la suite à être en finale de Ligue des Champions. Donc je pense, et en plus, Leverkusen, et c'est tout le problème de ce club qui, n'oublions pas, est un Werksclub, est un club d'usine, un club de fabrique. Le mot Werks, c'est la fabrique à l'ancienne dans le capitalisme. C'est de ne pas dépenser plus qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dominer le football européen alors qu'il pourrait très bien le faire. Donc on ne va pas changer le modèle. On va continuer avec des jeunes joueurs, les pépites, comme on dit, en espérant faire des plus-values, d'être compétitif, évidemment, en Bundesliga pour être dans le top 4. Mais on ne va pas changer le modèle.
Voilà pour le Bayer Leverkusen. Ligue des Champions, cette semaine. Les matchs, les quarts de finale retour, bien sûr, avec mercredi soir Manchester City, Real Madrid, après le 3 buts partout à l'aller, hein, somptueux, spectaculaire, à tous les niveaux. Julien, préparation tranquille pour City, victoire 5-1 contre Luton, qui leur permet de prendre la tête de PL, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs du titre. Est-ce que ce match a livré des enseignements sur ce qu'a prévu de faire Pep Guardiola?
Non, pas du tout. Il a mis au repos Rodri, qui avait d'ailleurs dit après le match du Real, le match aller, qu'il avait besoin de se reposer, qu'il avait beaucoup trop joué. C'est vrai qu'il a beaucoup joué et pour son club et pour son pays aussi. Donc il a eu son petit week-end de repos. Phil Foden aussi, qui avait fini la rencontre au Bernabeu avec le trophée du joueur du match, mais aussi avec des crampes et des petits coups à droite à gauche. Donc lui aussi, il s'est reposé ce week-end. C'était très bien. On a vu Kevin De Bruyne qui a été très bon. On a vu Erling Haaland qui a marqué, Guardiola qui a encore marqué du pied droit. Je sais pas ce qui lui arrive. Ouais. Et puis un très beau but de Mateo Kovacic aussi, qui pour lui aussi c'est un match un petit peu particulier. Encore une fois, donc tout va bien. Et en plus, comme on l'a dit, on en parlera tout à l'heure. Ils ont eu un très joli cadeau de la part de Crystal Palace et d'Aston Villa le dimanche, donc un week-end parfait finalement pour Pep Guardiola. Il faisait même beau à Manchester, donc voilà.
Ah bah. De Bruyne titulaire ce week-end, hein, qui sera bien là également mercredi soir. Mon cher Fredo, toi, est-ce qu'il y a un vent d'optimisme à Madrid avant d'aller à Manchester?
Oui, bien sûr. Oui, il y a optimisme parce que les gens ne regardent pas les résultats, en fait. Les gens qui connaissent le foot en Espagne regardent le jeu, en fait, ce qui s'est passé. Et le Real était très compétitif à cette équipe de City. Et c'est ça qui compte, en fait. Et l'optimisme qu'il y a lié à, on va pas revenir sur toute l'histoire.
C'était presque rassurant pour eux, presque.
Ah oui, c'était rassurant. Oui, c'était rassurant. Oui, parce que quand même, t'es mené 2 fois. Ouais. Tu reviens comme ça, il y a quelque chose de, Et en plus, il y a le sentiment que tu as très bien joué et tu as marqué 3 buts à City sans Bellingham, en fait, parce que Bellingham fait un très très mauvais match. C'est quand même ta grosse recrue, ton meilleur joueur depuis le début de la saison. Donc là, et puis pareil, pour la préparation, elle a été très facile. Hein. C'était vraiment un match d'entraînement sur la pelouse de Majorque en français, oui. Et donc, but de Tchouaméni d'ailleurs, très, très beau but. Tchouaméni qui sera pas là puisqu'il est, suspendu. Entre parenthèses, il y a eu des insultes racistes aussi contre Tchouaméni après son but dans le stade de Mallorca. Donc les gens qui disent que c'est à cause que Vinicius c'est parce qu'il provoque, ben Tchouaméni provoque. Voilà, c'est il y a vraiment du racisme en Espagne. Je ferme la parenthèse. Et donc non, il y a un optimisme alors qui est modéré parce qu'ils vont pas dire c'est fait, etc. Non, il y a rien de fait. Mais c'est vrai que les sensations sont très bonnes. Et moi, le soir même dans le vestiaire, ce qu'ils disent au Real, c'était on va gagner à City. C'est-à-dire que les propres joueurs après la rencontre, leur ressenti c'était on va gagner à City. Voilà, c'était le message qui se transmettait en privé. Les premiers à savoir s'ils ont bien joué ou pas, ce sont les joueurs. Mmh. C'est là-dessus. Donc voilà. Après, voilà, ça va être. On imagine que ça va être encore un match spectaculaire et que de toute façon, qui après avoir vu le match aller peut donner un pronostic sur cette rencontre?
Bah, je sais pas ce que vous en pensez. On met encore City favori, légèrement favori, même si ce qualificatif a pas trop de sens. Mais bon, City qui reçoit, City qui peut faire mieux aussi qu'au match aller. Julien, comment tu vois ce rapport de force 7 jours, 8 jours après?
Alors du côté de City, on est aussi confiant. Ils se sont trouvés bons, notamment en seconde période au Bernabeu, même s'il y a ce but du 3-3 qui vient, alors qu'ils considèrent qu'ils auraient pu gagner 3-2. Je pense que ce sera un match encore très ouvert et qui finalement ressemblera beaucoup au match aller, finalement, parce que le Real jouera de la même façon. À l'extérieur, ils ont joué à domicile comme s'ils allaient jouer à l'extérieur. Finalement, c'est un petit peu pareil dans la tactique et qui a très bien marché. C'est pas une critique du tout de la tactique, c'est la façon de jouer qui sera.
Ils avaient quand même bien renforcé le milieu de terrain. Il y avait 4 joueurs qui savaient défendre au milieu de terrain.
Oui, bien sûr. Et je pense que si Kyle Walker, Edroux et Pep Guardiola dit qu'il pourrait jouer, effectivement. On sait pas combien de temps. On sait pas si tu pourrais l'aligner d'entrée ou pas. Parce que si après il risque de se reblesser ou quoi, ça resterait compliqué. Mais forcément, avec Kyle Walker, ne serait-ce que pour que Vinicius se dise, je pense que si Vinicius il voit Akanji et si Rodrigo voit Akanji, ils se disent, bon, on va lui faire la même chose qu'à l'aller. Si tu vois Kyle Walker, tu peux dire, bon, ce sera pas la même histoire qu'au match aller. Donc, ne serait-ce que pour psychologiquement avoir ce petit boost-là, si Walker pouvait être titulaire, je pense que ce serait une très bonne chose pour City. Donc à mon avis, ça va vraiment être encore une fois super intéressant. Je sais que Volendam joue encore, il joue à chaque fois un soir de Ligue des Champions. Je sais pas ce que Yo va faire,
même pas il réagit quoi.
Non mais Julien, arrête de faire le teubé de Twitter, tu vaux mieux que ça. À un moment donné, le discours c'était pas ça. Donc essaye de faire autre chose que les mecs sur Twitter.
Ne te vexe pas, ça change gentiment. Tu vois, on sait bien que tu l'as regardé.
Teubé sur Twitter, c'est un pléonasme.
Ah, voilà, Polo voulait rajouter son petit grain de sel, évidemment. Mais Polo est sur Twitter aussi, vous le savez, vous pouvez trouver son compte qui a cartonné en 6 mois, c'est incroyable.
Très bien.
Cinéma, vélo et échec. Voilà. Et football aussi. Voilà. Un mot quand même. Tchouaméni suspendu. Eder Militao a fait son retour ce week-end. Ouais. Certains pensent qu'il allait débuter, mais bon.
Il a vraiment joué quelques minutes. Enfin, franchement. Voilà.
Blessé depuis août 2023.
Hein. Ben oui, non, mais je veux dire, il a eu le ligament croisé et tout. Enfin, je veux dire, ça me paraîtrait. Alors peut-être que pour une hypothétique demi-finale, on pourrait le voir un petit peu, il a 2 fois 3 minutes dans les jambes. Enfin, ça me paraît pour un match.
Donc, solution, ça sera quoi s'il n'y a pas de
Tchouaméni? Nacho.
Nacho, forcément.
Mais Nacho, c'est. Franchement, cette saison, c'est très dur pour lui. C'est vraiment très dur. C'est vraiment le gros coup. Après, Tchouaméni fait un mauvais match, mais physiquement, Nacho, c'est vraiment plus que ça a été, quoi. Donc, et il faut que Rudiger soit aussi bon. Rudiger, qui a été absolument monstrueux face à Haaland. Il faut que Rudiger refasse le même match. Voilà, donc c'est. Non, il y a
quelqu'un. Et que Bellingham en fasse un autre également.
Et que Bellingham aussi, donc il y a plein d'inconnus en fait. Et en fait, on sait que ça va être bien, mais il y a plein d'inconnus. Et ça qui est génial.
Regardez Bellingham, 2024, 12 matchs, 3 buts. Hein.
Non, c'est pas du tout. Il est
17
en
2023.
Il est en train de digérer son arrivée 2023. En Espagne. Il y a toujours un moment de doute, etc.
Contre-coup.
Ouais, un contre-coup, tout ça. Il y a une grosse excitation à son arrivée. Il expose tout le monde, etc. Puis après, à un moment, il y a une vraie baisse. Mais bon, c'est le moment de. C'est de quelle matière est fait ce joueur? C'est dans des matchs comme ça qu'on va le voir, quoi. T'es pas bon à l'aller. On va voir au retour. On va parler tout à l'heure d'Mbappé. Pas bon à l'aller. on imagine qu'il va être meilleur à Barcelone demain soir. Donc c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc moi je trouve que moi j'ai très très envie de voir ce match, quoi.
C'est trois parties de aller la suite mercredi soir. Ce sera sur RMC en direct, bien sûr. C'est l'heure de la première minute de la soirée, qui est un grand succès, m'a dit Johan, hein, qui a reçu des louanges des afteriens vendredi soir sur la minute musicale. Elle est italienne. C'est parti, on envoie la musique. Ah, c'est un classique.
Grand label.
Tony Renis, Quando, 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 avec les multiples reprises, interprétations, remixes qu'il y a eu partout dans le monde de ce très grand classique. Co-auteur d'ailleurs, cet homme-là, de l'hymne de l'AC Milan, en 1988. Grand fan du coup de l'AC Milan. Et c'est Berlusconi qui lui avait demandé, Berlusconi qui venait de prendre le club il n'y a pas très longtemps, et comme il avait commencé à le remettre au plus haut niveau, même européen, très rapidement avec Sacchi, il lui avait dit, écoute, je sais que tu es supporter du Milan, on est en train de prendre une dimension européenne assez importante, ce serait bien que tu nous fasses un petit hymne. Donc il s'était exécuté avec grand plaisir. Et on va parler des gardiens, parce qu'on a eu un samedi, très très compliqué en termes de spectacle. En termes de but surtout, parce qu'il y a eu un but en trois matchs, donc c'était pas génial, 2-0-0, notamment le derby de Turin qui était quand même pas génial. Mais à chaque fois dans ces matchs-là, il y a eu des gardiens qui se sont montrés vraiment particulièrement rigoureux sur leur ligne de but. Je pense à Chesney, je pense à Caprile sur le match d'Empoli, et Falcone de Lecce. Et c'est vrai que cette saison, c'est une constante. Je crois que j'avais déjà fait un petit truc sur les gardiens en début de saison. Et on a vraiment des gardiens de très très bon niveau, y compris dans les petits clubs. Je parlais de Falcone à Lecce, Caprile à Empoli, et je vais m'arrêter juste un instant sur Caprile. Parce que lui est vraiment excellent. Alors il est arrivé, il devait remplacer Vicario qui est chez Julien maintenant. Vicario qui est à Tottenham, qui d'ailleurs fait plutôt une bonne saison d'après ce que j'ai cru comprendre. Et Caprile est arrivé avec cette pression-là, et en plus on l'a même pas mis titulaire tout de suite. Lui il arrivait, il est prêté par Naples, et il avait fait une super saison avec Bari, failli monter en Serie A, etc. Et il arrivait remplaçant, et puis au bout d'un moment on s'est dit il est tellement plus fort que le titulaire qu'ils l'ont mis à son tour dans les buts. Et depuis qu'il est là, en fait, il rassure tout le monde, il est très explosif, il est très très bon sur sa ligne. Ça suffit pas toujours, mais ce qui est clair, c'est que si Empoli veut se maintenir en Serie A, et ils sont clairement dans la lutte pour ça, ils pourront dire merci à Caprile. Ils auront besoin d'un bon Elia Caprile jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, l'année prochaine, peut-être, parce que c'est très incertain autour de Meret à Naples, peut-être qu'il pourrait revenir de près et être le gardien numéro 1 à Naples.
Italie, grand pourvoyeur de grands gardiens, bien sûr. Hein. Un top 3
gardien italien histoire,
Johan. Dinosov.
Top 3. Buffon, Dinosov.
Zoff, Buffon. Après, c'est dur. Hein. Après.
Polo.
On a eu très bon, nous, en Angleterre, hein, Taibbi.
Ouais, pas celui-là du coup, on va choisir un autre. Bon. Non, mais après, entre moi j'aimais bien Angelo Peruzzi,
Spagliuca aussi, je me rappelle
Spagliuca, Toldo, on a eu quand même des très très bons gardiens, mais je mettrais peut-être Peruzzi quand même.
Peruzzi quand même, ouais. Sur le podium.
Juventus est là-dessus, il a été très très fort. Ouais.
Bon.